tout suit de A à U. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U. Vous écoutez votre quotidienne d'infos locales, c'est vous qui le dites. J'espère que vous allez bien pour cette dernière émission de la semaine. Ça sera l'occasion de revenir sur une avancée majeure puisque la mise en place d'un dispositif de congé menstruel au sein de l'UBO, a été votée à l'unanimité à la commission de la formation et de la vie étudiante et qui sera donc instaurée dès la rentrée 2025. Mais tout de suite, nous écoutons une interview du chanteur Edelbert interrogé par les petits métalleux pour présenter son tout dernier projet Enfantillage 666. Et tout de suite, je vous laisse avec le morceau Guitar Hero.
Guitar Hero. Tous mes copains d'école voudraient devenir pompiers. Médecin star de football, en voilà une idée. Moi, j'ai commencé ma carrière sur la banquette du salon. En guise de télécaster, la raquette de mon daron. Je suis en pyjama, mais il suffit d'y croire. Tous les yeux sont sur moi, c'est le show qui démarre. Il plane ici et là, l'ombre du grand Jimmy. Je sais que veille sur moi le légendaire Eddie. Sur la scène, chaque soir, je fais mon numéro. Je dégaine ma guitare comme un pistolero. Je suis un guitar hero, je suis un guitar hero. Ce soir à qui j'ai fermé, dernière date pour le fun. Je boucle la tournée au Madison Square Garden. Le public est en liesse et mes doigts sont en feu. Tapping à fond la caisse au panthéon des gratteux. Sur la scène chaque soir, je fais mon numéro. Je dégaine ma guitare comme un pistolero. Je suis un guitarero. Je suis un guitarero. Je suis un guitarero. Je suis un guitarero. À Crossroads en pèlerinage, qui s'en en pendulière. Jedi en apprentissage, ceci comme laser. Diapason médiateur affûté pour la jam finale. Potter à fond, maître nommé raté.
On a eu un petit changement, on va commencer directement par nos deux invités qui sont arrivés en studio et ça sera donc l'occasion de revenir sur une avancée majeure puisque la mise en place d'un dispositif de congé menstruel au sein de l'UBO a été votée à l'unanimité à la commission de la formation et de la vie étudiante et qui sera donc instaurée dès la rentrée 2025. Le congé menstruel, on va en parler donc, et pour en parler, on accueille Mélissa Grenier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc étudiante en deuxième année de psychologie, et Dorée Guérin. Bonjour.
Bonjour, Dorothée,
excusez-moi. Vous êtes vice-présidente en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte violence sexiste et sexuelle. Donc, commençons par le commencement. Pourriez-vous peut-être nous expliquer ce que sont les congés menstruels?
Alors, le dispositif congé menstruel, comme vous l'avez dit, a été voté en CFVU, donc la Commission de formation et de vie universitaire. Il prend une forme de 20 jours, donc c'est un contrat de confiance établi entre l'UBO et les personnes menstruées. Et c'est une dispense d'assiduité exceptionnelle de 20 jours par année universitaire. Donc il permet à toute personne menstruée confrontée à une impossibilité d'assister à ses cours, que ce soit des travaux dirigés, les TP, les évaluations continues, de bénéficier d'une absence justifiée et donc de réduire l'absentéisme injustifié dû à ça. Pour expliquer un petit peu les objectifs de la mise en place, c'est notamment favoriser le bien-être physique et mental des étudiants et des étudiantes concernées, d'encadrer aussi, comme je vous ai dit, l'absentéisme injustifié lié aux douleurs menstruelles et de reconnaître aussi les besoins spécifiques des personnes menstruées et de, à terme, sensibiliser aussi l'ensemble de la communauté universitaire, notamment à la réalité des menstruations.
Donc on l'a dit, ce projet il a été voté à l'unanimité en commission. Comment est-ce que les démarches, quelles ont été les démarches en fait pour porter ce projet?
Alors ça a été dans notre profession de foi en tant qu'élu. Donc moi je suis élue à la CFVU, élue étudiante, mais sur la liste FEDEB. Et donc les élus bougent ton campus. On a eu cette idée dans notre profession de foi. On a porté l'idée le 25 juin à la CFVU. En proposant un groupe de travail qui s'est organisé en deux temps afin de recueillir notamment les éléments essentiels à la mise en place et la mise en pratique surtout. Et ensuite, à terme, on a construit le dossier avec tous les éléments nécessaires pour mettre en place le dispositif.
Et ce projet, donc voilà, je le redis, il a été voté à l'unanimité, mais est-ce qu'avant qu'il soit soumis au vote, est-ce qu'au départ il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a peut-être eu même des oppositions à ce projet?
C'était plus des questions, parce qu'il y a une méconnaissance aussi autour de ce sujet. Il n'y a pas eu de réelle opposition directe. C'était plus des questions sur la mise en place, des questions aussi des scolarités, par peur aussi de la surcharge de travail. Mais non, le projet a été accueilli assez bien, notamment par les services de l'UBO, encore plus par les étudiants et les étudiantes.
Et donc, les congés menstruels, est-ce que ce congé est démocratisé en France, dans les autres universités, ou c'est peut-être quelque chose encore de petit et qui n'a pas eu l'occasion, ou peut-être aujourd'hui se démocratise de plus en plus, ou ça reste quand même quelque chose de réduit?
Il y a eu des universités qui les ont mis en place, mais on va être dans les 10-15 premières à mettre ça en place en France. Mais oui, ça se démocratise de plus en plus. Après, les congés menstruels prennent des formes différentes selon les universités. Il y en a qui ont des certificats médicaux, il y en a qui rentrent dans le régime spécial étudiant. Donc ça dépend de chaque université.
Et concernant ce sujet, est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites au sein des universités, notamment par exemple sur l'endométriose? Est-ce qu'aujourd'hui on sensibilise de plus en plus à ce sujet?
On sensibilise de plus en plus. Je pense que c'est une volonté de sensibiliser, mais tout n'est pas encore mis en place. Et je pense que tout n'est pas encore assez efficace en termes de sensibilisation, et notamment des campagnes par rapport à l'endométriose ou aux règles douloureuses également.
Comment fonctionnent en fait ces congés? Par exemple, on a combien de jours on peut disposer de congés?
Donc c'est 20 jours forfaitaires, utilisables sur l'année universitaire. Et les personnes menstruées l'utilisent en demi-journée ou en journée, et l'utilisent comme elles le souhaitent.
Et pour les personnes qui prendront ces congés, par exemple pendant les TD ou des partiels, qu'est-ce qui sera mis en place pour rattraper les TD et les examens?
Alors, si je puis me permettre d'intervenir, pas les partiels.
C'est
vraiment les contrôles continus éventuellement, mais pas les partiels. Pour les partiels, il faudra toujours un certificat médical pour justifier une absence.
Donc c'est un dispositif qui fonctionne sur la base d'un contrat de confiance. Il n'y a donc pas la nécessité d'avoir un certificat médical. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de ne pas demander ce certificat médical ?
Alors, il y a deux biais à ça. Le premier, c'est que les règles douloureuses ne sont pas reconnues comme une pathologie. Vu avec aussi le service de santé étudiant, on en a discuté beaucoup avec les personnes qui régissent ce service de santé. Et elles nous ont bien indiqué que ce n'est pas une pathologie, donc pas certifiable médicalement. Et ensuite, parce que ça peut être aussi une charge mentale et très lourde en plus à aller devoir chez le médecin attester d'un certificat médical pour des règles douloureuses.
Donc, le congé menstruel, est-ce que c'est, selon vous, un pas vers l'égalité homme-femme ?
Bah, évidemment. Évidemment que c'est un pas. Et puis, on a beaucoup travaillé avec Dorothée Guérin, donc je pense qu'elle pourra m'appuyer là-dessus. Mais évidemment que c'est un pas, mais c'est le début. Mmh. Et on a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Beaucoup de choses à travailler, beaucoup d'idées aussi, et de déstigmatiser un petit peu aussi au niveau des tabous, que ce soit des règles ou même de l'égalité femmes-hommes en général.
Disons que ça permet aux étudiantes d'être dans les mêmes conditions que les étudiantes et les personnes menstruées, mêmes conditions que les personnes non menstruées. Et il y a... Voilà, il y a énormément de contraintes comme ça, physiologiques, qui pèsent sur les femmes. Et si on veut effectivement arriver à un niveau d'égalité, il faut qu'on puisse effectivement être dans les mêmes conditions de travail et d'études.
Est-ce qu'à l'échelle nationale, vous êtes optimiste pour que ce congé se démocratise et peut-être s'élargisse même au-delà des universités ? Parce que je pense qu'on avait... Ça va déjà au-delà des universités, il me semble. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits, même pour des entreprises. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ?
Il n'y a pas de raison que ça ne se démocratise pas. Surtout que les premiers retours des universités qu'ils ont mis en place sont très, très positifs. Enfin, voilà, les peurs qu'il y avait par rapport au risque d'abus, le fait effectivement qu'il y ait énormément d'étudiantes qui soient absentes ou d'étudiants qui soient absents à un moment précis, à cause d'un examen, etc., ça ne s'est pas révélé. Il y a eu des retours, des questionnaires, notamment, je pense, à l'Université d'Angers, qui nous a partagé effectivement son expérience. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, que ça ne se démocratise pas. Et dans les entreprises, pour l'instant, effectivement, c'est selon la volonté de l'employeur, mais c'est aussi en train de se mettre en place petit à petit.
Et question peut-être un peu plus compliquée, comment est-ce qu'on pourrait garantir aux femmes le droit au congé menstruel tout en évitant qu'elles soient discriminées, par exemple, lors de l'embauche ?
Je pense que ça, c'est aussi un travail à faire du côté aussi de l'employeur et de déstigmatiser autour des règles. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'être discriminé parce qu'on a des règles, parce qu'on on est une femme ou parce qu'on a des menstruations.
Et puis c'est une réalité, c'est-à-dire que les femmes, de toute manière, ne sont pas forcément bien au travail alors qu'elles ne sont pas en forme. Et qu'elles, voilà, donc c'est aussi participer au bien-être de chaque étudiant, chaque personnel pour une meilleure efficacité, une meilleure collaboration de tous au sein du travail.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions.
Merci à vous.
Au revoir. I've grown mean, a humble farm, knew nothing but the countryside, and walking hard. One day we welcome a stranger, who was so different. Believe we were the same kind. This very morning I left the farm without no goodbye. I was young and this encounter changed my life for good. Maybe one day I will also be a city knight. The world is bigger, I could also be a city knight. Maybe one day I would also be a city knight. The world is bigger, I could also be a city knight.
city night, the world is bigger. I could also be a city night, maybe one day I will also be a city night, the world is bigger. I could also be a city night. It's still not certain, but in my mind, on the world was reachable. A universe made of concrete. Maybe one day I will also be a city night. The world is bigger. I could also be a city night. Maybe one day I will also be a city night. The world is bigger. I could also be a city night. Come on. I love my donkey, but since the man left, I can't see nothing but a shiny motorbike. I picture myself stepping on the guys. Oh, city night on his way to city life. I love my donkey, but since the man left, I can't see nothing but a shiny motorbike.
Nous écoutons maintenant l'interview du chanteur Edelbert interrogé par les petits métalleux pour présenter son dernier projet, Enfantillage 666.
Bonjour, merci à vous de vous rendre disponible pour nous à votre concert. Je suis Kélène, j'ai 12 ans et je suis littéralement tombée dans la marmite métallique au verso.
Je suis Violette, j'ai 8 ans et je suis en formation Wall of Theatre et Slam, mais je ne suis pas encore complètement lâché.
Je suis Awen, j'ai 14 ans et je fais des interviews pour Radio U.
Moi aussi je suis en formation Wall of Death. Je suis pas encore totalement à l'aise.
Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
Alors moi je m'appelle Guillaume Aldebert, Aldebert c'est mon nom, que j'ai transformé pour cette tournée-là en Aldebert parce que je raconte aux médias, donc je vous raconte à vous, que j'ai un jumeau magnifique que j'ai inventé évidemment, qui est là pour le côté théâtral de la chose. Et je fais de la chanson pour enfants, mais pas que, parce que l'univers que j'ai créé en 2008 s'appelle Enfantillage. Et c'est un univers qui parle d'enfance et du coup ça convoque des enfants, des parents et des grands-parents. Ce qui fait que j'ai un public composé de familles et c'est cool. Et là, depuis presque un an, j'ai proposé un album et une tournée métal qui est une espèce de passerelle entre tout ce qu'on fait dans le heavy metal, dans les musiques extrêmes et l'enfance.
Vous avez fait évaluer votre projet, vos chansons sont orientées métal sur votre dernier album. Comment avez-vous mûri ce projet ?
Dis donc, elles sont dures hein, tes questions, t'as du mérite, hein. C'est bien. Ouais. Comment j'ai procédé ? Ben, j'ai composé, j'ai écrit des chansons, un petit peu comme je fais d'habitude. Et en fait, je les ai rendues, je les ai produites de façon métal parce que j'ai fait intervenir des acteurs du métal. Il y a beaucoup d'invités sur cet album. Et puis, on a utilisé tous les codes du métal, c'est-à-dire de la double grosse caisse à la batterie, des grosses guitares saturées et les sons qui sont propres à cet univers-là.
Vous avez fait des duos d'anthologie. Comment avez-vous fédéré des Américains, des Suédois, des Brésiliens ou encore une bonne partie du gratin de la scène française ?
En envoyant des mails, tu vois, c'est pas dur. Hein. En envoyant des mails de façon un peu en mode bouteille à la mer, parce que je pensais pas avoir Max Cavalera ou Serge Tankian sur cet album. Et il se trouve qu'ils ont, répondu favorablement parce que c'était des collaborations qui, je pense, sortaient de leur ordinaire à eux. Je pense qu'on leur propose rarement de faire des albums pour enfants. Et à mon avis, c'est ce qui les a séduits et ce qui explique qu'ils ont rejoint le projet, à notre grande surprise d'ailleurs. Et pour la scène française, c'était un peu plus facile parce que tout le monde se connaît un petit peu. Je connaissais les Ultra Vomit, je connaissais un petit peu les Massystériens. Et du coup, quand les artistes sont français, c'est plus facile d'avoir les contacts des productions. et du management. Pour les Américains, c'est plus compliqué parce que la France, ils connaissent beaucoup moins, ils n'ont pas forcément de filiation avec nous. Et donc voilà, mais finalement, on s'est retrouvé avec un album qui est très. Avec un bon entourage, en fait, en tout cas, du métier.
Quand nous nous présentons comme métalleux à l'école, nous sommes pris pour des fous et mis de côté. Comment réussissez-vous à réunir autant d'enfants ? Y a-t-il un âge critique à partir duquel les enfants se renferment, subissent la loi et de la horde et rentrent dans une sorte de moule imposé ?
Ouais, alors c'est un peu compliqué tout ça, mais forcément à l'adolescence, tu vas un peu te chercher et tu vas essayer de trouver des trucs qui te plaisent et qui te permettent de combattre un peu tes angoisses, tes frustrations, tes aigreurs. Et ça peut être le heavy metal qui va t'aider, ça peut être le hip-hop, ça peut être la musique urbaine, ça peut être la musique du monde, ça peut être différentes esthétiques. Moi, à l'adolescence, c'était clairement le métal parce que carrément, c'est une musique qui m'a aidé, en fait. Tu sais, c'est un peu comme les films d'horreur, en fait. On aime bien regarder les films d'horreur quand on est ado parce que ça nous aide à affronter ses propres peurs, en fait. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça nous fait pas encore plus peur et ça nous fragilise pas, au contraire. Et d'écouter de la musique qui est non pas violente mais qui est puissante, ça nous aide à affronter la vraie vie. En fait. Et puis ça nous aide aussi à rêver et à imaginer des choses. C'est en ça que le métal est vachement intéressant parce que le métal propose plein d'imaginaires différents. C'est-à-dire que quand tu vas à un concert, par exemple, je dis à Mona Mars au hasard, vous avez des mecs qui sont habillés en viking avec des dragons et tout. On est dans quelque chose de très théâtral. Et ça, je trouve ça chouette. Ça fait rêver les gens, en fait. Ça les élève et ça les emmène ailleurs. Que plus loin que la vie normale, en fait, que la vie normale, c'est assez dur, c'est assez froid, et on a les pieds sur terre, et c'est pas toujours très drôle. Et le métal, ça nous sort de là, en fait. Et c'est ça qui est bien, et c'est sa fonction, je pense aussi.
Vos chansons portent des messages. Vos façons de composer ne nous prend pas pour des neuneux bas du front. Merci pour ça, tout d'abord. Mais comme vous êtes venu à l'idée de vous différencier de beaucoup d'autres auteurs pour enfants.
Ah, ben simplement parce que j'ai pas suivi les modèles, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé avec d'autres chanteurs pour enfants, c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai écrit quelque chose pour Pascal Parizeau, que j'adore. Mais d'enfantillage, en fait, j'ai jamais suivi le modèle des Henri Dess et Chantal Goya, et des chanteurs de mon époque. En fait, pour écrire de la chanson pour enfants, j'ai pris des modèles adultes, tu vois. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui que ça fédère aussi des parents. Tu vois, si j'avais fait quelque chose exclusivement pour les enfants, c'est-à-dire très minimaliste, très réducteur, qui ne s'adresse pas du tout aux adultes, je serais dans une autre forme de chanson. Et ce n'est pas ce que je voulais faire.
Dans les pays nordiques, le métal a beaucoup plus de place, y compris pour les enfants, semble-t-il. Qu'est-ce qui bloque en France ? Votre expérience semble démontrer qu'avec un peu d'éducation et cette musique, nous pourrions mettre plus de metalhead dans l'hexagone.
Ouais, c'est vrai, c'est juste. Je pense que c'est une question de culture et d'histoire. Nous, la France, c'est pas du tout un territoire de rock comme l'Angleterre ou les États-Unis. Et on a une histoire qui est liée au texte, qui est liée à la culture de la chanson. Moi, je viens de là aussi, mes parents écoutaient uniquement de la chanson française, de la musique classique et du jazz. Ils n'étaient pas du tout ouverts au rock. Une fois, mon père avait acheté le 45 tours de Scorpion, Syl Lovinou. C'était le seul truc métal, tu vois, qu'il y avait à la maison. Et c'était un ovni parce que moi, j'ai mangé du Beethoven, du Mozart, du Berlioz, du Handel, toute mon enfance. Et arrivé au collège, tu vois, cette frontière CM2 collège, ou par les grands frères, parce que c'est souvent par les grands frères ou les grandes sœurs qu'on découvre la musique, d'autres musiques. Et moi, en l'occurrence, j'ai découvert Maiden, Metallica, AC/DC, enfin Metallica un peu plus tard. Et du coup, là, ça a basculé. Mais c'est vrai qu'en France, le métal a toujours été une contre-culture, un truc qui porte des clichés lourds depuis longtemps, qui sont maintenant aujourd'hui complètement obsolètes et désuets à mon sens. Et moi, j'ai un peu ce double peine, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai les clichés de la chanson pour enfants, où on m'imagine déguisé en petit lapin, à faire des chansons « Allez debout les enfants, aujourd'hui c'est samedi ». Alors, je fais pas du tout ça, ok. Mais pour les gens, faire de la chanson pour enfants, c'est ça, tu vois. C'est un truc qui s'adresse aux tout-petits. Pourquoi ? Parce que la chanson pour enfants, avant, était comme ça. Et t'avais la chanson pour enfants, et après, t'avais un grand fossé, et la chanson pour adultes. Il n'y avait rien entre les deux. Il y avait un trou. Moi, je suis rentré dans ce fossé-là. J'ai essayé de tirer les bords, tu vois. Et du coup, j'ai les parents, les enfants et tout ça. Et je dis double peine parce que donc, il y a ce cliché d'image pour enfants cucu. Et il y a le cliché méga glauque, musique de dingue, du métal, qui n'est pas du tout ça. Parce que les métalleux sont des gens bienveillants, ouverts, engagés politiquement, sur l'écologie, sur le féminisme, sur plein de thématiques. Et on n'est plus dans le cliché du gars hyper glauque, drogué, sombre, triste, qui casse tout autour de lui. Je ne dis pas que ça n'a jamais été ça, mais il y avait des clichés, il y a très très longtemps là-dessus, associés aussi à la punkitude et tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Quand vous allez au Hellfest ou à un concert de métal, c'est une grande fête, les gens sourient, ils ont envie d'entendre cette musique puissante, ils ont besoin de ça, et c'est quelque chose qui fédère des enthousiasmes, en fait. On n'est plus dans quelque chose de nihiliste, en fait, tu vois ce que je veux dire.
C'est une violence partagée et contrôlée.
Exactement, ouais. Et on en a besoin, en fait, c'est quelque chose de nécessaire.
Une catharsis.
Exactement.
Notre musique est le plus souvent intellectuelle que ce que le quidam moyen l'imagine. Mais elle est avant tout physique. Elle se vit, se ressent, nous fait vibrer et parfois même rentrer en transe. Elle parle souvent de monde onirique, fantastique. Malheureusement, elle est marquée du sceau de l'infamie par une grande partie de la population en France, qui constitue dès lors votre public, les enfants de Metalhead, où vous avez réussi à élargir le panel de vos spectateurs pour vos albums précédents.
Oui, on a. Bah, moi, j'ai un peu de tout. En fait, j'ai des, comme tu dis, des metalheads, des enfants, des familles, des métalleux. Mais c'est pas la majorité, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui viennent, qui connaissent Enfantillage, qui n'ont pas du tout une culture métal. Et du coup, c'est à moi de les amener à ça et de leur montrer que, bah, finalement, c'est cool, quoi. On a, comme tu disais, des inspirations qui viennent de la science-fiction, des films d'horreur, de l'heroic fantasy. Et c'est un monde chouette. La scène, on va essayer de la définir comme une espèce de grand train fantôme. Quand on va dans un train fantôme, on y va pour s'amuser, on n'y va pas pour être triste ou être en colère, quoi.
Comment réagissent les parents quand vous leur rendez leur enfant tout cassé à la sortie du Aldebert?
À la sortie du concert, à la fin. Alors tu sais, c'est les parents qui sont tout cassés. En fait, c'est les enfants qui ramènent les parents, hein, chez moi. Ouais. Les enfants, ils sont en pleine forme, tout va bien. C'est les parents qui sont fatigués.
Non. Les enfants, ils sortent du... On fait ça avec des jeunes de 80 kilos sur eux.
Ah ouais. Non, non, c'est bien. Puis tu sais, on finit toujours par une mamie volante qui a un peu une espèce de symbole. Et c'est une image assez forte, en fait, par rapport à Enfantillage, d'avoir une grand-mère, en fait, qui se comporte comme un super-héros, comme un enfant, en fait. C'est très important, en fait, cette image-là.
L'autoculteur avec mon frère et un autre petit métalleux qui n'est pas là. Habituellement, on ouvre des gros pogo, des Wheel of Death ou des slams.
Ah, c'est vrai? Bah, ouais. Dis donc, c'est incroyable.
On a ouvert une vingtaine facilement.
C'est vrai? Trop bien, trop classe, purée. Et bravo, hein, parce que tu lis super bien, puis t'avais des questions difficiles. Alors, je te dis vraiment super. Hein. Et merci, bravo à tous.
Merci pour cette interview, à tout à l'heure.
Cool, ah ben, un grand plaisir.
Hello.
Croque-mitaine. C'est pareil, quand je monte me coucher, j'ai qu'à tendre l'oreille, j'entends leurs crocs grincer. Les uns dans le placard, je les sais bien cachés. Les autres sous mon plumard, c'était le mot cliché. J'ai sous mon oreiller ce refrain si puissant qu'il pourrait faire passer leur lame pour des cure-dents. Freddy, Leatherface, Jason, Pennywise et Chucky, moi je leur dis welcome. Hannibal Lecter, c'est mon tonton fripon. Craven et Carpenter, on bâtit ma maison. Je m'usave tranquille, vos couteaux et perceuses ne seront que futiles face à cette berceuse. Croque-mitaine, comme un blindage. Anti-slasher, comme...
peur du noir. Les films d'horreur, moi ça m'amuse. Je suis bien le seul à les voir. Tous ces écorcheurs sont mes muses. Cognitaine, comme un blindage anti-slasher. Cognitaine, vas-y dégage, tu ne fais pas peur. T'accrocher à ton slip.
C'était C'est vous qui le dites. Et c'est fini pour ce soir. On remercie encore Mélissa Grenier et Dorothée Guérin pour nous avoir présenté le nouveau dispositif de congé menstruel qui sera mis en place dès l'année 2025 au sein de l'UBO. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à lundi prochain sur Radio U. Bon week-end!